102.2, la radio più ribelle.
Paniche, paniche tu.
Attends, paniche pas.
Niche tu. Niche tu.
Paniche, paniche tu.
Paniche pas, niche tu.
Canu info du vendredi. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le Canu Info du vendredi qui commence un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a plein de choses à vous dire et on va commencer par la rubrique locale avec des invités, deux coursiers à vélo qui viennent causer en direct de leur mobilisation.
Et puis, toujours dans le local, on parlera de la mobilisation au lycée Doineau.
Et après, dans la rubrique nationale, on va vous passer un petit reportage directement du carnaval de Marseille pour vous raconter un peu ce qui se passe, du projet de rénovation urbaine de la Plaine et quelques petites bonnes nouvelles.
Et puis toujours dans la rubrique locale, rubrique nationale, je raconte n'importe quoi, on va parler de la manifestation du 19 mars à Paris, à Lyon et ailleurs, qui parle notamment des violences policières.
Et puis dans l'international, on ira du côté de l'Éthiopie, où l'effondrement d'une décharge a tué 70 personnes.
Et au Brésil, on vous parlera du gouvernement de Michel Temer et le droit du travail.
Et puis on finira avec le traditionnel agenda. Tout de suite, c'est parti pour la rubrique locale.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons...
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici...
Et vous, il s'agit de la fermeture de ces... En bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant résiste.
Et on résistait. Ce soir, c'est les coursiers à vélo qui résistent. Alors, on en a deux qui sont venus parler. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux secondes?
Ouais, moi, je suis Louis, coursier depuis un an.
Et moi, je suis Charles, coursier depuis quasiment un an aussi.
D'accord. Et du coup, là actuellement, vous vous mobilisez. En fait, on va juste reparler au début de... C'est quoi votre statut? Je crois que vous êtes auto-entrepreneur. C'est quoi un peu les conséquences de ce statut-là?
Alors c'est ça. Du coup, on n'est pas salarié, on est micro-entrepreneur. Donc en fait, c'est comme vous avez votre petite boîte à vous. Vous gérez vous-même votre vélo. Vous n'avez pas les avantages d'un salarié. En fait, il n'y a pas de congé payé, pas de droit au chômage, pas d'arrêt de travail. En cas d'accident, c'est toi qui casques. Et du coup, en fait, ça permet aux entreprises plus ou moins de pas avoir de charges quand vous embauchez. Et du coup, d'embaucher à mort, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée.
Ouais, c'est un peu un statut qui, au départ, paraît super cool. Et plus le temps passe, et plus, au final, tu te rends compte que... Bon, en fait, c'est un peu une arnaque. Hein, au départ, tu te dis, ah, je rentre 2000 euros brut. Et au fur et à mesure, plus il y a de charges, plus tu payes ta prévoyance et tout le tralala, et tu te retrouves au SMIC. Et là, tu fais, ah.
D'accord. Et donc vous êtes responsable de votre propre vélo, ça veut dire que tout ce qui est chambre à air, pneus, etc., c'est à vos frais, quoi.
Ouais, c'est à notre compte. Et du coup, c'est le principe que quand on vous dit que vous êtes payé du euro, au final, c'est beaucoup moins. Parce qu'il y a à la fois les charges du récit, l'entretien du vélo, parce que quand tu utilises un vélo 6 heures par jour, forcément il s'use et il faut l'entretien soi-même.
Et à ça, tu peux ajouter la RC Pro, si vraiment.
C'est-à-dire ?
La RC Pro, en fait, c'est la responsabilité civique. C'est en cas d'accident avec autrui, donc que ce soit une voiture ou un piéton, s'il y a des dégâts, on va dire, matériels ou physiques sur la personne, il va falloir que quelqu'un paye ces dégâts-là. Et du coup, la RC Pro va couvrir ce genre de petits pépins de la vie. Si t'es pas couvert, ben, on va dire que c'est pour ta pomme.
D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident
En cas d'accident, en shift, en fait, dans un créneau de travail, donc un shift, vous appelez en fait le dispatch. Donc le dispatch, c'est la personne qui va gérer les coursiers dans la ville. On vous dit, bon, voilà, j'ai un accident, je peux plus continuer de bosser. Ils vont vous dire, bah, bon rétablissement, au revoir. Du coup, ce qui s'était passé en fait avec Jérôme Pimaud, donc c'est plutôt la personne qui a initié le mouvement coursier à Paris. À un moment, il s'était cassé le poignet et pendant un ou deux mois, il était en arrêt de travail, pas de revenus. Et du coup, bah, la plateforme lui dit bah, attends deux mois. Donc,
Et malheureusement, je dirais que c'est en cas du premier accident qu'on commence à vraiment se rendre compte des limites de ce statut-là et qu'on commence vraiment à se renseigner. Et c'est après un premier accident, une première chute, un premier contact avec une voiture ou un piéton qu'on se dit, en fait, est-ce qu'il y a des protections pour ce statut-là? Et en fait, en se renseignant là-dessus, on se rend compte qu'en fait, les seules protections qu'on a, c'est qu'il faut qu'on aille démarcher nous-mêmes les prévoyances, les mutuelles, et qu'on se couvre nous-mêmes à nos frais. Donc, ça veut dire que notre salaire brut va être déduit de tous ces frais-là mensuels. Et même après avoir souscrit ce genre de garantie-là, enfin, de garantie entre guillemets, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas qui sont exclus de ce genre d'accident. Donc même en ayant ça, on se retrouve dans une situation où au final, la moitié du temps, on n'est pas couvert.
Et juste à ce propos, quand vous êtes salarié, vous avez une mutuelle d'entreprise du coup, qui est normalement payée par l'entreprise. Bah, dans ce cas-là, bah, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez la payer de votre poche, donc souvent 16€, 40€ par mois pour ça, en cas de coup dur.
D'accord, donc en fait, du coup, les plateformes, elles vous laissent assumer absolument tous les coûts, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne vous salarient pas, et du coup, vous êtes censé être des prestataires indépendants, et vous assumez absolument tout, quoi.
Ouais, en quelque sorte, on assume clairement quasiment tout, ouais, c'est ça.
Ouais. Et elles gèrent comment les plateformes, quand ils, par exemple, là, ces derniers temps, à Lyon, il y a eu du gros vent, de la grosse pluie, etc. Comment ça se passe en cas de mauvais temps?
Il y a eu aucune communication des plateformes en fait. Donc, c'est-à-dire que quand il y a eu des rafales à 100 km/h, bah, il y a eu moins de coursiers. Bon, il y a eu du coup un petit peu de problème au niveau de la réparation des coursiers, mais aucune communication des plateformes.
En fait, on va dire que les plateformes jouent sur une forme de désinformation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de communiqué clair sur les choses. C'est-à-dire, genre, clairement, à partir de 2 mm de pluie par heure, vous serez payé tant en plus. À partir de tel kilométrage de vent, vous aurez tant en plus. Non, c'est vraiment, ils nous laissent dans le flou complet. Et à partir de ça, ben, ils s'adaptent plus ou moins. Si jamais il y a un mois très pluvieux, ils vont dire que le bonus pluie va arriver à partir de 3 mm parce que sur le mois, il y aurait eu des pluies assez intenses. Et si jamais il y a eu un mois très sec, comme ce qui s'est passé depuis le début de l'année, bon, à chaque fois qu'il y a de la pluie, il y aura un bonus. Mais du coup, au final, on n'a pas quelque chose de continu qui est très défini, donc on n'a pas de certitude là-dessus au final. Voilà.
D'accord, c'est un peu le fait du prince, en fait, c'est les plateformes qui décident s'il a plu ou pas, quel que soit finalement le climat réel, quoi.
C'est ça, elles font la pluie et le beau temps.
Et c'est que ça, c'est encore assez récent. Par exemple, avant, on avait les relevés météo, du coup, avec les précipitations par heure exactement. Et on pouvait du coup contester qu'on n'avait pas ces bonus, on les envoyait à la boîte, et du coup, on était payé. Maintenant, depuis quelques semaines, par exemple, je prends l'exemple de Deliveroo qui a arrêté simplement de chiffrer. C'est juste en cas de précipitation, en cas de problème météorologique, vous serez indemnisé. Mais on n'a pas de chiffres pour contester, en fait. C'est ça le problème.
Ouais, d'accord, ils décident vraiment tout seul, quoi. Et tout à l'heure, on discutait un petit peu avant l'émission de la question du branding. Donc le branding, c'est le fait de devoir porter les couleurs, faire de la publicité gratuite, en fait, à Deliveroo, à Foodora, à Uber, par exemple, en portant leurs uniformes et leurs sacs. Et je crois que c'est quelque chose que vous dénoncez. Et je pense surtout, en fait, on discutait, il y a notamment des c'est quelque chose que vous êtes censé faire, que certains d'entre vous ne font pas, et il y aurait de la dénonciation...
Juste récemment, il y a l'exemple de plein de coursiers, par exemple, dans des restaurants, Deliveroo, encore une fois, même si c'est pas les seuls, ont ajouté une option dans la tablette, en fait, des restaurateurs où ils gèrent les commandes. Quand le coursier part, ils peuvent signaler, juste en cochant une case, que le coursier n'avait pas sa veste ou n'avait pas le cube brandé Deliveroo, Foodora, Stuart ou autre. Par exemple, il y a des coursiers qui roulent avec des cubes noirs, pas brandés, avec leur veste personnelle, enfin, leur vêtement de cyclisme, en fait. Il y a un peu de sorte de délation, en fait.
D'accord. Et du coup, sur cette histoire de délation, est-ce que, par exemple, on est quand même normalement, vous n'avez pas d'employeurs, hein, vous êtes des prestataires, mais du coup, il y en a quand même qui se font virer, a priori.
Après, c'est uniquement des extrapolations par rapport à ce qui se passe. Mais on a une impression que les plateformes font en sorte de trouver des arguments pour se libérer en quelque sorte des éléments qui vont leur coûter cher. C'est-à-dire que auparavant il y avait des coursiers qui avaient un taux horaire avec une rémunération à la commande. Et aujourd'hui, dans le cadre Deliveroo ou de nombreuses autres plateformes, il y a ce qu'on appelle une rémunération à la commande. C'est-à-dire que les gens qui sont rémunérés au taux horaire leur coûtent trop cher aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver des raisons pour au final se séparer de ces gens-là. Et cette dénonciation du fait de ne pas porter les vêtements brandés au nom de la plateforme ou d'être pas assez performant sont des raisons à peu près valables entre guillemets pour ces plateformes pour se séparer de nous.
Et juste à ce propos, petite anecdote rapide, récemment il y a eu une réunion avec, encore une fois Deliveroo, hein, ça revient souvent, mais avec un responsable Deliveroo et du coup des gens du club des coursiers. En fait, il leur a expliqué que le sac cube était pour des raisons d'hygiène importantes. Et qu'au final, la sécurité des coursiers, bah, visiblement, ça l'importait pas tellement peu. Parce que sur les virages serrés, quand il y a des coups de vent, le cube, c'est pas du tout pratique, quoi. Et aussi le fait que les vêtements qu'ils donnent, qu'ils obligent à porter, sont pas des vêtements de cyclisme. Bon, mais les détails, la transpiration, etc., c'est pas adapté à ça. Donc,
D'accord, donc on vous oblige en fait à prendre des risques pour faire de la pub à la boîte, quoi.
C'est ça, moi j'ai des vêtements, j'ai des cuissards et trucs comme ça pour le vélo et je peux pas les utiliser parce qu'on me force à porter des t-shirts en nylon.
Puis au-delà de faire de la pub, genre c'est pas uniquement, enfin c'est pas un point qui me gêne en tant que tel, c'est quand on se renseigne sur le marché et faire de la pub pour une boîte, quand on voit le temps qu'on passe sur la route et le nombre de kilomètres qu'on fait, on devrait être rémunéré en conséquence. Or, on doit payer au départ, enfin pour Deliveroo, ils doivent payer 150€ de caution. Pour Foodora, c'est un chèque de 150€ qui n'est certes pas encaissé, mais c'est 150€ qu'on doit mettre en caution.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu payes pour faire de la pub.
C'est ça, en quelque sorte. Ouais.
Et juste par rapport à la publicité, il y a un des rares acteurs dans le marché, même si c'est pas forcément éthique, mais Uber Eats en fait fait signer de manière facultative un contrat de publicité gratuite. Voilà. Donc facultative, mais il vous pousse bien pour le faire, quoi. Donc ils vous disent, bah, signe-le quand même, c'est quand même important.
En fait, elles sont très très inventives, les plateformes, pour faire des trucs dégueulasses, a priori. Et notamment, le dernier truc dégueulasse, c'est que vous êtes quand même en concurrence les uns avec les autres. Actuellement, apparemment, il y a de plus en plus de coursiers et c'est assez compliqué.
On va dire que les boîtes, c'est tout dans leur intérêt d'avoir un maximum de coursiers sur le terrain. Il y a un quadrillage absolument hallucinant de la ville de Lyon, en l'occurrence, et d'autres villes, que ce soit Paris, Bordeaux ou Toulouse, n'importe quelle ville en France. C'est plus le quadrillage est fin, c'est-à-dire plus il y a de coursiers au kilomètre carré. Plus le temps de livraison et le temps que le coursier va mettre jusqu'au restaurant sera limité. Donc pour eux, c'est tout bénef. Parce que les nouveaux contrats du type chez Deliveroo sont à 5€ de la course, sans minimum. Donc ces gens-là, même s'ils ne tournent pas, ils leur coûteront rien du tout. Or, nous, ce qu'on met en avant, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un nombre de coursiers aussi élevé ? C'est ça la question, au final.
Et du coup, ça nous permet d'embrayer directement. Donc, il y avait un rassemblement mercredi soir. C'est quoi vos revendications actuellement ? C'est quoi ce que vous défendez ?
Alors, il y a trois revendications principales du mouvement du 15 mars, qui était national, où il y a eu trois villes en France, donc Paris, Lyon et Bordeaux. Du coup, en fait, on a trois revendications. D'abord, il y a eu le gel des recrutements, en fait. C'est que, bah, vu qu'on n'est pas salarié, il n'y a pas de charge pour embaucher, il n'y a pas de charge pour désembaucher. Il n'y a pas de droit de chômage, etc. Et du coup, en fait, pour bosser, on s'inscrit sur des créneaux. Et ces créneaux, vu qu'on est trop, en fait, malheureusement, même s'il faut bien du boulot pour tout le monde, mais on ne peut plus s'inscrire. Moi, avant, je suis passé de 25 heures à 10 heures par semaine. Des coursiers qui faisaient 3 000€, ils font 1 500.
On parle de brut, de salaire brut.
Alors qu'ils sont depuis en salaire brut. Enfin, en facture brute, en fait, parce que ce n'est pas des salaires. Deuxième truc, le respect de l'indépendance. On a bien expliqué juste avant, mais il y a un genre de salarié déguisé et... Du coup, en fait, avec que ce soit les vêtements brandés ou l'interdiction de critiquer la boîte, ça, je vais peut-être le dire, mais dans les contrats de prestation de service, donc déjà, le contrat n'a pas de valeur, mais dans le contrat, il y avait écrit qu'on n'a pas le droit de critiquer Deliveroo. Donc, il y avait des gens de Foodora, de Deliveroo qui sont venus à Lyon, à Terreau, ce mercredi, pour voir les coursiers qui étaient là. Il y en a qui ont été virés, qui sont là depuis un an et demi.
Genre là, on est vendredi, il y a des personnes qui étaient présentes mercredi qui...
Alors, pas exactement suite au fait d'être venus à cette manifestation. Il y a des gens qui sont venus du fait qu'ils avaient été justement éjectés de cette plateforme pour avoir, à un moment donné, ouvert leur bouche pour aborder des choses qui ne plaisaient pas à ces plateformes-là, on va dire.
Et du coup, dernière revendication qui rejoint un petit peu le respect de l'indépendance, c'est par rapport aux deux parties, donc celle de Foodora, c'est-à-dire les plateformes, et nous, la fixation des tarifs, en fait. C'est que c'est seulement eux qui vont choisir combien on est payé, alors qu'en soi, quand vous avez des indépendants d'un côté et des plateformes de l'autre, il faut que les tarifs des prestations soient un accord commun, en fait. Et c'est pas du tout le cas.
Et juste pour remettre ça dans un contexte, ça, c'est une réponse directe aux plateformes. Si on veut pas fixer un prix à la commande, un peu la tête, en mode, genre, on veut vous extorquer du fric. Non, c'est tout ce qu'on veut, c'est que, à partir d'un certain moment, une certaine expérience, une certaine durée de travail dans ce genre de plateforme, c'est qu'on soit reconnu en tant que tel. C'est qu'on soit payé en conséquence. Et que l'augmentation de la rémunération à la commande ne soit pas faite en fonction de la tête, en fonction de « je vous aime » ou « je vous aime pas ». Non, c'est vraiment en fonction de « est-ce que vous travaillez bien ? Est-ce que vous fournissez un travail qui est respectueux de la plateforme ? Est-ce qui est respectueux au final de ce que vous avez signé au départ ?» Et voilà, enfin, c'est à partir du moment où vous fournissez un travail qui en vaut la chandelle et qui vaut quelque chose... Vous soyez rémunéré pour.
Ouais, on vous paye pour le faire. Et du coup, ce rassemblement du 15 mars, donc de mercredi à Lyon, là, ça a donné quoi ? Vous êtes content de ce qui s'est passé ?
On va dire que c'était un premier jet un peu sur le terrain. On est plutôt content de ce qui s'est passé. On était certes un nombre assez limité, de l'ordre de 50 à 60 coursiers sur Lyon. Mais c'était un premier jet assez intéressant de voir qu'au final, dans le mouvement, dans les gens qui étaient présents, il y avait beaucoup de personnes anciennes. Qui roulent, qui se sentent professionnels, et du coup, il y a quand même une conscience qui commence à émerger de ce mouvement, une conscience de groupe et des gens qui se disent bon, on peut faire quelque chose.
Voilà. Et c'est vrai que cette journée, c'était surtout une journée de visibilité. En fait, on savait très bien que les plateformes n'allaient pas être impactées parce qu'il y a tous les nouveaux coursiers, les gens qui font ça à côté, etc., qui ne sont pas forcément concernés par la cause, hein, même si on ne leur veut pas. Hein, c'est pas tout le monde a le privilège de lutter ou autre. Mais effectivement, c'est surtout pour la visibilité, faire des articles de presse comme on fait maintenant à Radio Canu. Et après, il y avait sollicité des élus qui sont venus à Lyon, à Terreau, pour voir un peu ce qui s'est passé et un peu s'intéresser à la cause. Enfin, donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser à ça. Donc c'est surtout pour ça.
Ouais, donc la visibilité, elle arrive. Juste pour conclure, je crois que vous venez tous les deux de deux structures un petit peu différentes. Est-ce que. Charles, tu peux nous présenter d'abord les Fusées Vertes et puis on conclura avec Louis sur la question du club des coursiers lyonnais.
Ok, donc du coup les Fusées Vertes, ça date de l'époque de la fin de Take It, la chute de Take It.
Take It Easy qui était une
grosse plateforme belge qui a fait faillite le 26 juillet 2016. Et du coup, cette association a pour but en fait de réunir les coursiers lyonnais au départ sous une structure reconnue juridiquement. Et qui permettent de mutualiser les informations qu'on avait pour pouvoir mener cette action en justice qu'on est en train de mener justement en fait avec Maître Mention et des coursiers nantais contre Take It Easy et pour pouvoir au final toucher les dividendes qu'on n'a pas touchés en réalité. Voilà.
Et du coup pour le club des coursiers en fait c'est encore tout nouveau à Lyon, ça date d'octobre je crois, à peu près octobre 2016. Hein. En fait, c'est une structure associative en fait, qui est toujours en cours de création pour les coursiers lyonnais, que ce soit pour rassembler à la fois du coup, le côté revendicatif, apporter un nouveau type de syndicalisme entre guillemets, à Lyon, parce qu'on est une vraie communauté. Et du coup, même cette communauté est surtout aussi dans des événements sportifs, en fait, vu que c'est quand même lié à notre activité, donc un peu de cyclisme. Et du coup, on a fait par exemple une action revendicative, plus ou moins le 4 février avec une allée 4. Donc voilà, en fait, donc c'est encore en cours de création. On a essayé d'avoir un local, etc. Mais voilà, c'est toujours un peu en chantier.
D'accord. On avait parlé, il y avait eu un très beau reportage sur cette allée 4. Pourquoi ça fait rire tout le monde ? Il était magnifique.
Il était très bien. Hein.
Ah, voilà. Et du coup, enfin, on va pas faire d'autoglorification. Non, mais du coup, ce qui est important, effectivement, c'est que c'est pas juste. Une profession en essence, c'est aussi effectivement de l'entraide, des gens qui se filent des coups de main, etc. Il y a une vraie solidarité parmi vous et ça fait plaisir à voir. Alors, en deux secondes, qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
On souhaite un avenir radieux. En réalité, hein, c'est genre une union entre coursiers, quelque chose qui puisse perdurer sur la durée, quelque chose qui puisse attirer de l'entraide. de la bonne humeur et au final des coups de pédale sur la ville avec peut-être un
avec toujours peut-être quelqu'un pour nous prêter une pompe.
C'est ça, avec peut-être un avenir radieux pour le cyclisme sur Lyon. Oh, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Hein.
Et puis on vous souhaite peut-être aussi un avenir radieux dans la lutte contre le capitalisme.
Tout à fait.
On pourrait introduire le droit au travail et la protection sociale dans des milieux où c'est pas facile. Et ben merci beaucoup pour avoir
participé. Merci bien.
Au Canu Info. Et du coup, on va passer tout de suite à la mobilisation au lycée Doineau.
Alors, on va plutôt passer directement à la rubrique nationale. Ce que je vous propose, c'est d'aller vous renseigner, parce qu'à Doineau, il se passe des choses chouettes. Il y a des lycéens qui se mobilisent et des profs qui les soutiennent. Et donc, il y a une belle mobilisation pour des conditions d'enseignement meilleures, notamment sur les effectifs dans les classes. Et du coup, on passe à la rubrique nationale.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et Radio Canu était à Marseille dimanche dernier, le 12 mars. Il y avait le carnaval de la Plaine. Alors, la Plaine, c'est quoi? C'est un quartier populaire au centre de Marseille. Dans le cœur, c'est une grande place, la place Jean Jaurès, où notamment il y a un marché trois fois par semaine. C'est un quartier qui est très, très vivant, mais qui est à risque parce qu'il y a un gros projet de rénovation urbaine depuis quelques années à Marseille et qui menace ce quartier qui voudrait en faire un très joli, une très jolie vitrine de Marseille. Donc, il y a pas mal de résistance qui lutte contre ce projet. Et le carnaval, c'est un peu un événement festif qui célèbre aussi le fait qu'il y a plein de gens en lutte là-dedans. Donc, Canu Info du vendredi était là-bas avec un micro un peu pourri. Donc, on avait quand même envie de vous faire entendre ce que nous, on a pu échanger avec les habitants de la Plaine et les chants qui se passaient au carnaval et les petites bonnes nouvelles qu'on a apprises en étant là-bas. Donc, bonne écoute.
Il nous plaît et on veut le garder, le marché la Plaine. Tel qu'il est, il nous plaît et on veut le garder, le marché la Plaine.
La Plaine !
L'idée, c'est de diminuer de plus d'un tiers le nombre de forains qui est du marché. De toute façon, leur retirer leur licence pendant toute la durée des travaux.
Qui est prévu à combien de temps ?
Ce qui vont durer au moins 2 ans. Et ensuite, ils doivent redemander leur licence et on leur a promis de ne pas leur redonner. De transformer le marché qui est le plus grand marché de Marseille, qui est un marché populaire, le transformer en marché à touristes. De diminuer, je te l'ai dit, la surface du marché et de mettre à la place, de retirer tous les bancs où on vient s'installer gratos et boire des coups gratos, les remplacer par des terrasses de café payantes. De modifier le sens de la circulation.
Vous pouvez bien les mettre à la banlieue. Sur notre marché, ça ne se vend pas. Si on parle en chagé, en babille, tous les idiomes et tous les charabias. Que la Provence ici est bonne fille. Et à la Plaine, comme tout elle vous dira. Touchez pas la Plaine, touchez pas. Élevez vos sales pattes de là. Bulldozer, architecte de mafia, ce quartier ne vous regarde pas. Touchez pas la Plaine, touchez pas. Elle est à tous et à tous restera. Si elle change, vous en faites pas. c'est le peuple qui la transformera.
Ce qui va gagner en surface, c'est les terrasses payantes.
D'accord. Pour pouvoir plus se poser pour avoir sa canette de bière.
Exactement. Ouais, c'est ça l'idée. C'est de tout merchandiser.
D'accord. On va chanter du coup parce que donc, la rénovation de la plaine, en fait, elle menace tous les forains qui sont ici, puisqu'ils veulent supprimer la moitié des forains. Et remplacer, on va dire, l'autre moitié par des commerces plus prestigieux. Donc, en fait, ils aimeraient élever en gamme le marché.
D'accord.
Et du coup, bah, tous les gens qui sont là n'ont pas trop leur place dans un marché un peu plus haut de gamme.
D'accord.
Et l'un des projets aussi, c'est de remplacer les forains par des
qui appartiennent à des grandes chaînes
et qui vendent des produits de bas de gamme. Mais, tu vois, les forains, c'est des familles qui gagnent leur vie sur les marchés. Et ça serait remplacé par des solderies qui sont des chaînes.
Il y a eu, on va dire, une régularité. Je crois que c'était en gros un jeudi par mois où ils ont fait des grosses manifs qui descendaient avec tous les camions jusqu'au Vieux-Port et jusqu'à la mairie centrale. Et donc, ils ont fait au moins trois grosses opérations comme ça avec 150 camions qui bloquaient tout la Canebière, le Vieux-Port et tout. Donc ouais super. Donc ils sont assez mobilisés et avec il y a un lien qui est quand même un peu fait avec l'Assemblée de la Plaine et les habitants du quartier. Même si c'est vrai que le fait de réunir on va dire la lutte des habitants contre la gentrification et des forains, c'est pas forcément facile de toujours faire des actions communes, mais en tout cas, c'est clair qu'on se bat contre la même chose.
Il est sonné la friture, si ça vous emmerde, n'y venez pas. Mais vers la nuit, la fête et la friture se portent mieux quand vous n'y êtes pas. À tous les faux culs, à tous les parjureux, restez chez vous et n'y revenez pas. Allez donc promener votre figure dans un quartier qu'elle ne défigure pas. Touchez pas la plaine, touchez pas.
On en voit là-bas.
Élevez vos sales pattes de là. Vous deux airs architectes de mafia.
Ils ont commencé à parler il y a 3 ans.
D'accord.
Et il y a eu des vraies fausses concertations où tu as des gars de boîtes de com qui sont arrivés de Paris en interdisant aux gens mal habillés de rentrer dans la salle de concertation. Enfin, tu vois, je veux dire, c'était très orchestré.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, il y a vraiment une union entre des populations qui n'ont pas grand-chose à voir. Tu vois, entre les gens qui sont militants politiques, entre les squatteurs, entre les forains, des populations qui, a priori, n'étaient pas trop en contact et qui, là, le sont. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, il y a un mépris absolu de la population réelle.
C'est-à-dire les personnes en dehors de...
L'idée c'est de gentrifier, ouais, l'idée c'est de gentrifier le quartier. Autour de la mémoire. Il y a eu un week-end où tout le monde a été invité à donner des photos de ce qu'ils ont vécu à la plaine en tant qu'enfants, etc. Il y a eu toute une exposition de photos. Autour de la géographie subjective, c'est-à-dire que les gens de l'Assemblée de la Plaine ont amené des cartes du quartier sur des feuilles A3 et ont proposé aux gens de tracer au crayon pour eux de délimiter où commençait et où se terminait la plaine et d'expliquer pourquoi, tu vois, de vraiment expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'était le quartier pour eux. Il y a eu aussi énormément d'argent.
Je sais ce qu'ils vont faire pour l'instant.
Okay. Malgré oui, les manifestations.
Oui, 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 oui. Mais c'est. Oui, après, peut-être que ça se mobilise pas assez fort pour ça, quoi.
Ok.
Puis après, la mairie est assez puissante, je veux dire, quelque part. Elle ignore un petit peu toute résistance. Comme toujours.
Aujourd'hui, on est tous réunis.
Ça va arriver d'après ce que j'ai compris.
Ouais, ouais.
En fait, donc le permis, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé par la mairie, qui a été gagné par une agence italienne. Le pré-projet a été présenté, les esquisses sont présentes en mairie de secteur, elles sont affichées, tout ça. Simplement, étant donné la mobilisation très forte qu'il y a du quartier, des forains, etc., une bonne nouvelle et une première victoire pour nous, c'est que l'équipe de maîtrise d'œuvre, les archis, se sont retirés. Alors qu'ils avaient été retenus pour le projet. Donc ça, c'est déjà une première très belle victoire.
Qui m'expliquait que
après, a priori, ça c'est une source, enfin une information qui a circulé. Donc il faut peut-être qu'on vérifie encore les sources de cette information. Pour être sûr à 100% que ce n'est pas une information erronée, mais il a été dit que
c'était une partie d'échauffement.
Et dans ce cas, il y aurait des choses.
Alors, à la Marseillaise, on ne sait pas trop comment ils vont faire, parce qu'ils pourront dire ne rien dire du tout et mettre une autre équipe, etc. Mais bon, en même temps, c'est quand même un petit peu trop, je pense, trop médiatisé aujourd'hui pour qu'ils se le permettent. Et puis par ailleurs, maintenant. Aussi avec l'intégration à la métropole, etc. Bon, Godard peut, même s'il peut encore faire beaucoup de choses, il est peut-être un petit peu plus contrôlé que. Après, il y avait eu un courrier qui avait été écrit par les gens du quartier, de l'Assemblée de la Peine, etc., pour justement un très beau texte. Sur le fait que l'équipe des archis qui s'engageait, on leur mettait face à leur contradiction, on leur dit vous avez tels engagements.
Chanter avec les chorales ou
officiellement, vous dites que vous faites avec les populations, que vous défendez les projets participatifs, etc. Très bien, et alors maintenant, qu'est-ce que vous faites avec nous? Et c'était voilà, donc il y a cette lettre qui avait été envoyée, cette lettre ouverte. À l'équipe de maîtrise d'œuvre est signée par pas mal de personnes de l'Assemblée et du quartier. Donc je pense que ça avait un petit peu pesé aussi dans la balance.
Ce qu'ils avaient essayé de faire, de rencontre avec les habitants.
Touchez pas, la plaie ne touchez pas, élevez vos sales pattes de là, bulldozer, architecte de mafia, ce quartier ne vous regarde pas. Touchez pas, la plaie ne touchez pas, elle est à tous et à tous restera.
Donc la bonne nouvelle qui était juste un rumeur le week-end dernier a été confirmée par plusieurs médias. En fait, l'architecte urbaniste Paola Vigano a quitté l'équipe du projet de rénovation de la plaine. Donc l'entreprise chargée par la ville de gérer le projet fait un peu semblant que c'est pas très grave, qu'ils vont trouver une remplaçante. Mais nous, on espère tous et toutes que en vrai le projet et ça va être ralenti, retardé, ça va donner le temps à la lutte de se réorganiser, de faire encore plus de trucs. Et entre temps, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce projet, sur la résistance à la rénovation de la plaine, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée de la Plaine. Vous pouvez écouter un super reportage sur Radio Galère et vous pouvez aussi vous rendre au Carnaval de la Plaine 2018.
Et sans transition aucune, on va vous parler de la Journée nationale contre la violence policière qui aura lieu en France le 19 mars. Alors ce dimanche 19 mars, c'est une journée nationale contre la violence policière. Adama, Théo, Rémi, Amine, Amadou, Lamine, la liste des violences policières, des meurtres de la police s'allonge encore et toujours. Cet état de fait est insupportable et pour lutter contre cela, une grande manifestation a lieu le 19 mars à Paris. Et à Paris comme ailleurs, des événements et manifestations sont organisés par les familles de victimes, de meurtres policiers et de nombreux collectifs militants. Du coup, on va commencer par vous lire l'appel de la marche qui va avoir lieu à Paris le 19 mars, donc ça veut dire ce dimanche, avant de vous expliquer comment y aller et si vous ne pourriez pas y aller dans un troisième temps, on vous expliquera ce qui se passe sur Lyon. Alors, l'appel de la marche. Un par mois. C'est en moyenne le nombre de pères, de frères, de fils que nous perdons à cause de la brutalité des forces de l'ordre. Une brutalité qui prend plusieurs formes. Des techniques de pliage qui conduisent à l'asphyxie des victimes au coup de poing. Des balles ou de tasers qui, dans les pires des cas, s'avèrent mortelles. Régulièrement depuis plus de 40 ans, les nôtres sont ainsi tués par l'État français, aux mains de ceux que l'on appelle ironiquement les gardiens de la paix. Régulièrement, depuis plus de 40 ans, c'est l'impunité la plus abjecte et les campagnes de criminalisation qui répondent aux mobilisations de celles et ceux qui réclament vérité et justice pour leurs morts. L'acharnement policier, judiciaire et politique contre la famille Traoré, à qui nous exprimons toute notre solidarité, en est la preuve. À chaque fois, c'est la même histoire. La répression qui nous vise, nous familles de victimes, s'est accentuée sous le régime de l'état d'urgence. Tous les abus sont devenus possibles, avec leur lot de conséquences tragiques. Ce n'est plus la police qui s'adapte à la loi, c'est la loi qui s'adapte à la police. Et nous sommes loin d'être les seuls à avoir été visés par le renforcement des dispositifs sécuritaires et des violences d'État. En 2015, le gouvernement a déclaré une véritable guerre intérieure. Il a traqué les migrants et ceux qui les défendent, poursuivi la traditionnelle répression des Noirs, des Arabes, des Roms, et plus généralement des quartiers populaires, ciblé les musulmans, notamment via des perquisitions, des assignations à résidence et des fermetures de mosquées totalement arbitraires. À cela s'ajoute la guerre sociale qu'ont menée Valls et consorts, notamment dans le cadre de la mobilisation contre la loi travail. Face aux résistances des quartiers populaires et du mouvement social, on a vu les violences se déchaîner en touchant des catégories jusqu'ici protégées. Les attentats terribles que nous avons connus en 2015 et en 2016 sont venus renforcer l'arsenal sécuritaire, alors qu'ils sont la conséquence directe de la politique guerrière que la France et ses alliés mènent à l'étranger. L'État français, qui pèse toujours de tout son poids sur les peuples qu'il domine comme en Afrique, prolonge cette politique en Moyen-Orient, tout comme il entérine l'occupation de la Palestine. Sa lutte contre le terrorisme ressemble surtout à une agression permanente contre les peuples innocents. C'est entre autres ce qui nourrit la crise humanitaire des réfugiés, traitée cyniquement comme une menace potentielle terroriste. C'est le serpent qui se mord la queue. Le climat de guerre intérieure permet de justifier le contrôle toujours plus brutal de la population et délivre un permis de violence aux forces de l'ordre qui répriment toutes les gueules qui ne le reviennent pas et toutes ceux et celles qui, des familles de victimes aux manifestants contre la loi travail, en passant par les militants et les militantes des quartiers populaires à la ZAD, osent s'affronter contre l'État, réclamer justice et affirmer leur dignité. Nous sommes tous concernés. La campagne présidentielle ne va rien arranger. Au contraire, presque chaque nouvelle déclaration est une insulte faite à nos combats, à nos préoccupations et à nos urgences. Parce que nous ne nous soumettrons pas à l'arbitraire du pouvoir, parce que les mots justice et dignité ont encore un sens pour nous, parce que nous pensons qu'il est primordial de nous organiser ensemble pour lutter contre la guerre faite aux pauvres, aux migrants, aux descendants de colonisés. Nous apaisons toutes et toutes, celles et ceux qui se sentent concernés par ces sujets à nous rejoindre dans toutes les initiatives à venir et à participer très largement à la marche pour la justice et la dignité qui aura lieu le dimanche 19 mars à Paris. Contre la OGRA, contre l'immigration, contre le racisme et les violences policières, contre les guerres lâches faites en notre nom, contre les peuples qui ne nous ont rien fait. Retrouvons espoir, force et unité pour faire bloc ensemble au nom de la justice et de la dignité. Voilà, du coup, c'est un appel signé par énormément, vraiment de très très nombreuses personnes, de très nombreux collectifs. On vous invite à retrouver toutes ces signatures sur Internet. Et en tout cas, voilà, on vous invite aussi du coup à aller à Paris. Mais alors du coup, comment faire pour aller à Paris? C'est là que rentre le comité lyonnais du collectif du 19 mars qui vous propose donc un départ en car afin de converger à Paris le 19 mars dans le cadre du coup de la grande marche nationale pour la justice et la dignité contre le racisme, l'islamophobie, les violences policières, la OGRA, la chasse aux migrants, vous l'aurez compris. L'aller-retour se ferait en car dans la journée avec un départ à 6h du matin, métro Gerland, arrivé 12h30 à Paris, retour 17h30 Paris-Gare de l'Est et arrivé à Lyon à 23h59. Il faut savoir que si les prix sont normalement de 30€ pour chômeurs, étudiants et RSA précaires, tarif normal 35€, tarif de soutien 50€, il est vraiment toujours possible de négocier. Et il y a un très joli appel que vous pouvez trouver sur le site Rebellion qui explique aussi que faire ces voyages ensemble, c'est aussi prendre en charge collectivement ces luttes-là, c'est aussi des lieux de rencontre, que vraiment si financièrement c'est un problème pour vous, ça peut être, enfin ce sera pris en charge, et c'est des expériences qui ont autant de sens que le fait d'aller à la marche en elle-même. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations et comment contacter ces personnes sur rebellion.info. Et pour finir, si vraiment vous n'avez pas envie de prendre le car, eh ben vous pouvez aller à un barbecue, puisque le comité Justice et Vérité pour Mehdi organise un barbecue contre les violences policières le même jour dans le parc des Minguettes à Vénissieux à 12h. Alors au programme, il y aura une prise de parole de la famille de Mehdi, mais aussi d'autres familles de victimes de l'agglomération lyonnaise. Un barbecue, alors on vous précise qu'il y aura des merguez et des ailes de poulet. Et une table presse avec aussi des open mic et du football si ça vous intéresse. Très très rapidement, avant de donner l'antenne à moi-même pour vous parler de l'international. Juste pour vous dire que le comité Justice et Vérité pour Mehdi. Mehdi, c'est quelqu'un de 28 ans qui est rentré en scooter avec deux amis en décembre. La police a voulu les contrôler et leur mettait l'impression, notamment les collant avec leur véhicule sérigraphié. Le conducteur a alors perdu le contrôle et le scooter a chuté. Mehdi est à ce moment-là, comment dire, tué. Du coup, par les actes de la police. Et donc, il y a un collectif qui s'est monté depuis en soutien à la famille et pour Vérité et Justice pour Mehdi et qui existe à Lyon depuis plusieurs mois maintenant.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et comme vous l'aurez compris, international, nous passons à la rubrique internationale. Et nous allons du côté de l'Éthiopie, où nous n'allons pas souvent. Et notamment, nous allons vous parler de l'effondrement d'une décharge en Éthiopie qui a tué 70 personnes. Alors, samedi 11 mars, une partie de la montagne de déchets d'une décharge de la capitale éthiopienne s'est effondrée, tuant plus de 70 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Des travaux de terrassement étaient en cours dans le cadre d'une réhabilitation du site, à laquelle les chiffonniers habitant les lieux et travaillant sur place n'ont pas été associés. Donc c'est la décharge de Koché à Addis Abeba, donc une montagne de déchets accumulée depuis des décennies sur 30 hectares dans le sud-ouest de la capitale éthiopienne. Samedi 11 mars, un éboulement a provoqué la mort d'au moins 72 personnes et blessé des dizaines d'autres, essentiellement des femmes et des enfants. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours depuis mercredi. Donc les victimes sont essentiellement des chiffonniers qui vivaient et travaillaient dans cette décharge, cherchant chaque jour des matériaux de valeur. Cette décharge, mise en service en 1964, a depuis été abandonnée, mais continue de fonctionner de manière informelle. Des tonnes et des tonnes de déchets accumulés ont formé une montagne de 15 mètres de haut. Depuis 2007, l'Agence française de développement, une structure sous tutelle du ministère des Affaires étrangères français, est impliquée dans un chantier de réhabilitation et de fermeture du site. Selon les ONG Zero Waste et Gaïa, l'Agence française de développement aurait consacré plus de 5 millions d'euros d'études à ce site, puis une enveloppe de 20 millions d'euros sous forme de prêt accordé à la municipalité pour fermer la décharge et en créer une nouvelle. Zero Waste et Gaïa s'étonnent que des travaux d'une ampleur telle qu'ils pouvaient déstabiliser l'édifice de déchets aient commencé alors que des personnes étaient présentes sur place. En effet, la presse relate que 150 personnes y vivaient en permanence. Si un travail de terrain en collaboration avec la population avait eu lieu, peut-être que les habitants de la décharge auraient été accompagnés pour la quitter lors des travaux. Aucune prise en charge n'a été prévue pour ces personnes dans le projet de fermeture de la décharge. Et aujourd'hui, c'est 70 personnes qui sont mortes. La présidente de l'association Zero Waste souligne, du coup je cite la présidente, « Nous lisons dans la presse qu'il aurait été demandé aux chiffonniers de partir pour que les travaux puissent se faire, mais ils ne l'ont pas fait. Point. » L'argument nous semble assez faible dans la mesure où il s'agit de leur habitat et de leur économie, qu'ils n'ont nulle part où aller. Elle pointe le manque d'informations sur ses financements et cite le récent projet de loi quant au devoir de vigilance des entreprises, conséquence de l'effondrement de Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Il faut bien comprendre que l'Agence française du développement est une structure liée à l'État français et que des entreprises françaises travaillent à l'étranger. À ce titre, nous, citoyens français, sommes liés à cet effondrement de la décharge d'Addis Abeba. Cette notion de devoir et de vigilance nous concerne tous. Donc au-delà du point de vue de la présidente de l'association Zéro West, effectivement, c'est quand même assez impressionnant de voir que l'Agence française du développement a participé du coup à la réhabilitation, à la fermeture de ce site, sans prendre en compte les personnes qui y vivaient, et que du coup, en ce moment, du coup, 70 personnes sont mortes. Le secteur des déchets est une véritable économie. L'Éthiopie se développe rapidement, avec une croissance à deux chiffres, et une production de déchets qui suit cette courbe, mais n'est pas encore en capacité de l'absorber. À Madagascar, comme dans de nombreux autres pays, les déchets font vivre de nombreuses familles, malgré des conditions sanitaires très éloignées des standards mondiaux. Il existe de nombreux programmes où la population locale est partie prenante des projets de réhabilitation. L'intérêt de ce type de démarche est de répondre aux besoins des familles, avoir un revenu, un habitat décent, voire de ne plus être perçu à terme comme le rebut de la société. Parce que c'est bien joli de vouloir fermer des énormes décharges ou des énormes projets qu'on a mis à un moment donné dans des pays éloignés de la belle société française. Encore faut-il prendre en compte toutes les familles qui vivent depuis sur ces économies formelles ou informelles. Par exemple, en Inde, on a vu qu'il y a eu une démonstration que collaborer avec ces travailleurs permet non seulement de réhabiliter des décharges informelles, ce qui représente un intérêt environnemental non négligeable, mais aussi de porter un projet social pour des populations mises au ban. Donc les chiffonniers, acteurs d'un secteur de l'économie informelle, s'organisent un peu partout dans le monde pour défendre leur travail. En Égypte, le secteur de la récupération, tri et recyclage des déchets est également un secteur informel où les chiffonniers se battent pour maintenir leurs sources de revenus. Et on ne peut que souligner qu'il y a en ce moment beaucoup de dommages collatéraux, que ça tombe toujours sur les plus précaires, que finalement les plus riches continuent de polluer, de faire autant de déchets, et que ça part d'une décharge à l'autre, mais que même quand ils veulent se donner bonne conscience, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on se dit, ah bah tiens, on va fermer la centrale, sans prendre en compte du coup toute l'économie qui s'est créée, et surtout la vie de personnes qui vont vivre. On ne défend pas tellement que ce soit bien ou pas, en fait, de vivre des chèques à l'âge. C'est juste que ces personnes sont là à ce moment de l'été, qu'elles ne sont pas prises en compte et que les pauvres, finalement, deviennent toujours de plus en plus pauvres.
Et maintenant, on va partir au Brésil, après l'Afrique, puisque nous allons aller voir du côté des droits du travail, donc au Brésil. Puisqu'il y a eu des grèves, des manifestations et même une occupation du ministère de l'économie, pas mal, et des dizaines de milliers de Brésiliens, en fait, qui sont descendus dans la rue mercredi pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement du président conservateur Michel Temer. Donc en fait, dès 5h du matin, il y a plusieurs centaines de militants de gauche, notamment du mouvement des sans terres, donc le MMST, qui se sont introduits dans l'immeuble du ministère de l'économie, principal concerné par cette réforme qui vise à sortir le pays d'une récession historique. Les services de sécurité locaux ont signalé des dégâts matériels, notamment des vitres brisées. Et le message était assez clair, les Brésiliens en ont marre de voir leur droit du travail attaqué. À Sao Paulo, qui est dit le poumon économique du pays, la grève des transports a provoqué des embouteillages monstrueux. Aucun bus ne circulait avant 8 heures et le trafic du métro était très perturbé. La grève a été maintenue malgré une décision du tribunal régional du travail qui exigeait le fonctionnement total des transports. Sous peine d'une amende d'environ 100 000 reais, ce qui correspond à 30 000 dollars. À Rio, il y a eu des écoles publiques qui étaient en grève alors que la collecte des ordures était suspendue à Brasilia. Et des manifestations ont eu lieu dans les capitales de pratiquement tous les États du Brésil. Donc du coup, pourquoi y a-t-il un joyeux bordel comme ça au Brésil? C'est parce que depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de Michel Temer après la destitution de Dilma Rousseff, il y a eu un certain nombre de mesures d'austérité impopulaires pour tenter de relancer l'économie du Brésil. Donc après avoir fait approuver par le Congrès le gel des finances publiques sur 20 ans, l'autre réforme phare prévoit d'élever l'âge minimum de départ à la retraite à 65 ans. Un changement qui est radical dans un pays où les travailleurs peuvent s'arrêter à 54 ans. Donc voilà, ils se prennent quand même 9 ans de vie dans les dents. L'argument est que nous sommes en train de montrer la voie pour sauver les retraites de la faillite, pour sauver les pensions des retraités d'aujourd'hui et des jeunes qui prendront leur retraite demain. Personne ne va perdre ses droits, donc a argumenté le président lors d'un discours à Brasilia. Les militants de gauche l'accusent pourtant de mettre à mal le système de protection sociale déjà fragile dans ce pays dont la population est touchée de plein fouet par la crise. Le chômage a atteint un taux record de 12,6% et près de 13 millions de personnes à la recherche d'un emploi. Les mesures d'austérité font plonger au plus bas la cote de popularité d'un gouvernement déjà éclaboussé par le scandale de corruption Petrobras qui est entré dans une nouvelle dimension mardi, voilà, avec tous ces événements. Le procureur général Rodrigo Janot a demandé l'ouverture de 83 enquêtes qui visent au moins 5 ministres et les présidents de deux chambres du Congrès selon les médias brésiliens. Et ces enquêtes en fait sont basées sur les confessions explosives de 77 anciens cadres de géants du BTP qui s'étaient associés à d'autres entreprises du bâtiment pour truquer les marchés de la compagnie pétrolière d'État. En retour, étaient versées commissions et pots de vin alimentant les caisses noires de partis politiques et d'élus influents. Donc pour le gouvernement, la priorité absolue est de faire passer la réforme des retraites, malgré la paralysie des parlementaires tétanisés qui cherchent déjà des moyens d'obtenir l'amnistie pour délits liés au financement des campagnes électorales. Et du coup, pour mieux comprendre aussi le climat politique dans lequel est le Brésil en ce moment et qui peut aussi expliquer... Les mouvements sociaux, eh ben on peut faire un petit zoom sur sur une autre nouveauté du gouvernement en matière de protection des entreprises esclavagistes, parce que la bourgeoisie revancharde brésilienne, donc qui avait fomenté le coup d'État contre la gauche et la présidente Dilma Rousseff, a un peu du mal à sortir des méthodes du 19e siècle. Près de 6 mois après sa prise de pouvoir, donc Michel Temer, lié au lobby des propriétaires terriens qui dispose d'une solide assise au Parlement, refuse de publier la liste sale, autrement dit le rapport recensant les entreprises pratiquant l'esclavage moderne. En fait, depuis 2003, cette liste noire était rendue publique tous les 6 mois par le ministère du Travail et les sociétés incriminées se voyaient dans l'impossibilité de prétendre au marché public et aux prêts bancaires jusqu'à ce qu'elles paient leurs amendes. Et du coup, dans un pays où la corruption mine tous les niveaux de pouvoir, une telle liste était particulièrement précieuse. Mais du coup, quand on parle d'esclavage moderne, de quoi on parle exactement ? En fait, là, on n'est pas sur la traite négrière, mais on est quand même sur des pratiques assez radicales, puisque en fait, il y a des recruteurs au Brésil qui sont nommés les gatos, les chats, et qui en fait promettent un salaire confortable à des travailleurs pauvres et souvent analphabètes. Et ces personnes-là, du coup, acceptent de s'engager. Les opportunités d'emploi étant aussi assez rares, quoi. Et les gâteaux les emmènent alors dans les régions peu accessibles. Leurs papiers sont confisqués. Le travail s'avère vraiment très difficile. Et ils peuvent aussi acheter de la nourriture uniquement dans les magasins qui sont tenus par les propriétaires des exploitations à des prix exorbitants. Et ils sont ainsi dans un cercle vicieux de l'endettement dont ils n'arrivent pas à se défaire et qui fait qu'ils se retrouvent piégés et coincés. Et même s'ils avaient la capacité physique de s'évader, il y a aussi des menaces sur les familles qui empêchent cela. Ce travail forcé concernerait 161 000 personnes au Brésil, et surtout des jeunes de 15 à 30 ans, de zones rurales ou de quartiers pauvres. Du coup, en 2014, les entreprises coupables ont lancé une bataille juridique afin de réduire la liste à néant et la liste de Stahl dont on parlait et de perpétuer leurs sales pratiques en toute impunité. La Cour suprême suspend la publication, mais en mai 2016, soit 3 mois avant sa destitution, le gouvernement de Dilma Rousseff tente d'inclure des modifications à cette liste afin de la préserver. Et depuis, Michel Temer a rallié le camp des patrons esclavagistes et relance la bataille juridique. Pourtant, après un nouveau rebondissement et un recours de l'avocat général de l'Union, la décision du tribunal est suspendue et oblige la publication du rapport le 7 mars. Et dans la foulée, le ministère du Travail fait également appel, justifiant que cette publication est la méthode la plus efficace pour combattre le fléau de l'esclavage moderne. Et dans une interview récente, Dilma Rousseff note que l'esclavage a subsisté dans les faits. C'était la logique du privilège, voilà pourquoi la pauvreté a persisté. Bon. Et si le Brésil a été le dernier pays du continent à avoir aboli la servitude en 88, la société reste profondément marquée par cette histoire et une élite blanche tente d'en reproduire les méthodes. Et donc voilà deux exemples qui nous montrent que Michel Temer ne fait que faire marche arrière sur les droits du travail au Brésil.
Et ça ressemble foutrement à du néolibéralisme quand même. Hein.
Ah bon?
Je sais pas.
Et donc on va passer maintenant à l'agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et l'agenda, c'est parti.
C'est parti. Demain. Demain, 18 mars. Action antinucléaire à Lyon. Alors, à l'appel de la coordination Stop Budget.
Budget.
Une grande action contre le nucléaire de 13h à 17h sur le pont lyonnais et à 17h30 place Pradel. C'est quoi le pont lyonnais?
Les ponts lyonnais, je pense que ça parle des ponts Morand, Lafayette, Wilson, Guillotière et Lafayette. Du coup, c'est un peu tous les ponts qu'il y a sur le Rhône.
Mais est-ce qu'il y a deux ponts Lafayette à Lyon?
Est-ce qu'il y a un point de départ? On ne sait pas trop.
Non, il faut se retrouver directement sur les ponts lyonnais.
Et ou sinon chercher des informations sur internet, mais allez-y de 13h à 17h, il y a de quoi faire.
Et sinon retrouvez-vous à 17h30 place de l'Opéra.
Plus facile.
Et après ça, vous pouvez aller au concert de soutien aux réfugiés LGBTIQ, enfin QI dans celui-là ici, de 20h à 3h du matin. C'est le collectif Big Tape qui organise ça. Et du coup, avec le collectif Lesbien Lyonnais, et au programme de la danse, de la chanson, des débats. Et du coup, vous pouvez trouver plus d'infos sur rébellion.info.
Et du coup, dimanche 19 mars, on vous l'a déjà dit, mais vous pouvez aller à un barbecue en soutien au comité Vérité et Justice pour Mehdi à Vénissieux, et plus précisément au parc des Minguettes à partir de 12h.
Lundi, comme d'habitude, c'est la permanence juridique de soutien aux sans-papiers, à la lutine et les cours de langue à la plume noire. Pareil, vous pouvez trouver plus d'infos sur rébellion.info.
Et puis du coup, lundi toujours, il y a une marche au flambeau pour la fête de Nevorose. Alors qu'est-ce que c'est le mardi? Ah non, ça c'est mardi. Le mardi 21 mars à 19h, la maison de la Mésopotamie vous invite à une marche au flambeau pour la fête de Nevorose, place Bellecour. Donc vous pouvez vous rejoindre place Bellecour à 19h pour suivre une fête traditionnelle kurde.